Bonjour professeur Combe, vous êtes PUPH et chef du service de réanimation médicale à la Pitié-Salpêtrière et nous sommes heureux de vous accueillir pour discuter ensemble d'Eolia concernant l'ECMO dans le SDRA paru récemment en mai 2018 dans le New England Journal of Medicine. Première question, pouvez-vous expliquer le contexte scientifique qui a justifié la réalisation de cette étude ?
Bonjour, d'abord merci beaucoup pour l'invitation. Alors le contexte scientifique, il date de l'année 2009, hein, là où j'ai réalisé la première version du protocole. À cette époque, donc il y avait un gros point d'interrogation en ce qui concerne l'utilité de l'ECMO dans la prise en charge des SDRA les plus sévères. D'une part parce que cette technique était associée à beaucoup de complications, en particulier hémorragiques à l'époque, et d'autre part parce qu'en 2009, il y a eu la publication de l'essai César, qui est l'essai anglais, qui avait montré un bénéfice, mais avec un certain nombre de biais méthodologiques, ce qui fait que l'étude avait été énormément critiquée. Puis 2009, vous vous souvenez aussi, c'était l'année de la pandémie H1N1 avec le nouveau variant. Et donc, un certain nombre de cas ayant bénéficié d'une ECMO avec un pronostic extrêmement favorable. Hein, donc, tout ça fait qu'il y avait donc un vrai rationnel pour tester, dans le cas d'un essai randomisé, donc l'ECMO dans le SDRA sévère.
Deuxième question, pouvez-vous nous décrire la population incluse et les principaux résultats ?
Alors la population incluse dans Eolia, c'est des malades extrêmement sévères. C'est des malades qui donc avaient un rapport PO2 sur FIO de l'inclusion qui était de 70. Ce qui en fait l'essai de malades randomisés dans un essai pour le SDRA les plus graves donc à la date de ce jour. C'est des malades qui avaient bénéficié pour les deux tiers d'une séance de DV avant la randomisation. Et essentiellement donc dans les quelques heures qui avaient suivi donc l'intubation. C'est des malades hein, également qui présentaient un état de choc pour presque les trois quarts de la population, un état de choc septique, souvent extrêmement sévère, nécessitant le recours aux catécholamines. Et les deux tiers des malades présentaient une pneumonie, qui était en fait la cause principale du SDRA. En ce qui concerne les résultats principaux, donc le critère principal d'évaluation, c'était la mortalité à J60 post-randomisation. Cette mortalité, elle était 35% dans le bras ECMO et de 46% dans le bras contrôle. Ce qui fait une différence de 11%, qui n'atteint malheureusement pas la significativité. On a un petit P qui est à 0,07, on est très très proche, mais on n'atteint pas tout à fait la significativité. Il est extrêmement important de noter que dans le bras contrôle, il y a eu 28% de malades qui ont dû bénéficier d'une ECMO de sauvetage pour hypoxémie réfractaire. Et ce, malgré le recours au décubitus ventral dans plus de 90% des cas chez ces malades-là, et l'utilisation d'une curarisation prolongée dans 100% des cas de ces malades contrôle. Ces malades contrôle, ils étaient extrêmement sévères au moment donc, de l'utilisation de l'ECMO de sauvetage. Il y en a une dizaine qui ont dû bénéficier sur les 35 au total d'une ECMO véno-artérielle pour un choc cardiogénique associé. Il y en a même 6 qui ont été implantés sous massage cardiaque pour arrêt cardiaque réfractaire. Donc ça, c'est le deuxième résultat principal de l'étude en ce qui concerne le bras contrôle. Et d'ailleurs, ce qui explique aussi pourquoi le résultat sur le critère principal d'évaluation n'a pas atteint la significativité, puisque un certain nombre de ces malades du bras contrôle donc, ont été, entre guillemets, sauvés par la technique d'ECMO qui a été appliquée, donc, encore une fois, dans 28% des cas du bras contrôle. Donc ça, c'était le deuxième résultat fondamental. Le troisième résultat fondamental de l'étude concerne la sécurité d'emploi du dispositif, puisque encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait une grosse inquiétude dans les années précédentes concernant la sécurité, en particulier les complications hémorragiques et en particulier les complications hémorragiques intracérébrales. Et le résultat d'Eolia, c'est que ces complications sont finalement très peu fréquentes. Elles étaient mesurées à 2% donc, des malades dans le bras ECMO et étaient même moins fréquentes que dans le bras contrôle. Ce qui donc rassure énormément sur la sécurité d'utilisation de ce dispositif.
Troisième question, quelles sont d'après vous les principales limites de cette étude ?
Alors la principale limite est celle qui a été beaucoup discutée, en particulier dans un éditorial qui a été rédigé par le docteur Dresden, qui est l'éditeur en chef du New England. C'est le fait que cette étude ait été arrêtée, entre guillemets, pour futilité, alors que sur le plan statistique, on était juste passé au-delà de la barrière qui motivait l'arrêt par le DSMB et donc il y a eu une grande discussion avec l'éditeur en chef en particulier sur les raisons qui ont motivé cet arrêt. Et donc on leur a expliqué que c'était une décision qui avait été suivie en suivant les règles d'arrêt qui étaient fixées initialement et que évidemment l'essai aurait pu être poursuivi jusqu'à l'analyse intermédiaire suivante. L'essai a été arrêté au terme de 240 patients inclus sur 331 théoriques dans un dessin séquentiel. L'analyse suivante était prévue à 300 malades. Et donc il y a une grande discussion de savoir si, en allant jusqu'à 300 malades, l'essai aurait pu éventuellement devenir positif. Donc on a travaillé beaucoup avec nos biostatisticiens et donc on a fait des simulations statistiques, plus de 50 000 simulations. Et en fait, même si on avait poursuivi l'étude jusqu'à 300 malades, la probabilité d'arrêt pour efficacité n'aurait été que 10% à peu près. Tout ça, on en revient au fait qu'il y a 28% de malades des bras contrôle qui ont bénéficié d'une ECMO de sauvetage, qui en fait un petit peu dilué l'efficacité de l'ECMO, puisque dans le groupe contrôle, il y a 28% des malades qui ont bénéficié d'une ECMO. Donc la puissance de l'essai pour montrer cette différence de 11% entre les deux bras, en prenant en compte ces 28% d'ECMO de sauvetage, aurait nécessité probablement 400-450 malades pour pouvoir démontrer cette différence de 11%. Voilà la principale limite. Mais qui est peut-être une force de l'essai finalement aussi, parce que c'est la réalité des choses. Et la première fois qu'on montre aussi qu'il y a, malgré le DV, les cures rares et la prise en charge optimisée, pour ces malades les plus sévères, un certain nombre de malades qui sont en échec de la stratégie conventionnelle.
Dernière question. Selon vous, ces résultats doivent-ils modifier notre pratique au quotidien? Et si oui, dans quelle mesure?
Alors, évidemment, oui. Moi je suis l'investigateur principal, donc moi je crois beaucoup que cette étude est une étude extrêmement positive. Et d'ailleurs, quand on lit l'éditorial de l'éditeur du New England, Jeff Dresen, sa conclusion est que c'est une étude positive. Il écrit que tout porte à croire que l'ECMO apporte un bénéfice, non seulement parce qu'il y a une différence de 11% de mortalité en faveur de l'ECMO, mais également parce qu'il y a beaucoup de critères secondaires qui montrent donc un bénéfice en faveur du groupe ECMO, en particulier moins de jours où les patients sont en défaillance cardio-circulatoire ou ont besoin d'une dialyse, par exemple. Deuxièmement, quand on regarde la mortalité du bras ECMO, elle est de 35%. C'est une mortalité qui est comparable à la mortalité observée dans un certain nombre d'études randomisées récentes dans le SDRA, qui avaient inclus des malades beaucoup moins sévères. C'est par exemple la mortalité du bras contrôle de l'étude Oscillate, l'étude canadienne sur l'HFO. Cette mortalité de 35%, elle est inférieure à la mortalité observée dans l'essai Oscar, l'essai britannique également sur l'HFO, qui était à plus de 45%. Et l'essai le plus récent, l'autre essai le plus récent dans le SDRA, c'est l'essai de Marcelo Amato, l'essai ART, testant donc une stratégie de recrutement, où dans le groupe contrôle, la mortalité est à 45% pour des malades pour lesquels le rapport PF à l'inclusion était de 120. Et donc dans Eolia, il n'est que de 70. Donc la mortalité est extrêmement basse pour des malades extrêmement sévères. Les critères secondaires, tous pointent en faveur de l'ECMO. Et encore une fois, même si donc le petit p à 0,07 ne permet pas de conclure à la différence significativement en faveur du bras ECMO, quand on regarde les courbes de Kaplan-Meier, moi j'estime que devant un malade qui a une pneumonie hypoxémiante, qui a un rapport PF inférieur à, disons, 80, qui était le critère d'inclusion dans Eolia, le bénéfice à attendre de l'ECMO motive donc le recours à l'ECMO, et ce, extrêmement rapidement. Mais bien sûr, j'étais l'investigateur principal et j'ai peut-être un regard un peu biaisé sur cette étude. Mais quand on a discuté de cette étude, lorsque je l'ai présentée au congrès de l'ATS à San Diego, la conclusion donc de l'éditeur du New England et l'éditeur du JAMA, qui était également présent sur le podium, c'était que c'était une étude qui avait un signal extrêmement positif, même si probablement, du fait du nombre d'ECMO de sauvetage dans le bras contrôle, on n'a pas pu atteindre la positivité sur le critère principal. Et enfin, le critère secondaire principal, qui était la mortalité pour les malades admis dans le bras ECMO, et la mortalité ou le recours à l'ECMO de sauvetage dans le bras contrôle, et cette fois très en faveur du bras ECMO, puisque donc seulement 35% des malades du bras ECMO donc ont rencontré ce critère-là, et contre 57% des malades du bras contrôle, avec là du coup un petit p qui est inférieur à 0,01, donc un petit p très très significatif. donc qui suggère l'efficacité de ce traitement quand on prend en compte ce critère-là.
Merci beaucoup, professeur Combes, d'avoir répondu à nos questions.